Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé grâce au podcast. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique que vous écoutez tous les samedis et les mardis matins à 10h pour la rediffusion. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Biotine. La semaine dernière, c'était donc l'émission de reprise et j'ai été tellement bavard que je n'ai pas pu évoquer tous les articles que j'avais prévus, donc on continuera à parler de l'actualité scientifique qui était prévue la semaine dernière aujourd'hui pendant cette petite heure d'émission, et on écoutera aussi un peu de musique, hein. C'est l'alternance science et musique sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Alors il y a pas mal de recherches, hein, qui sont bien sûr menées sur cette maladie Alzheimer. On en parle souvent dans cette émission de ces recherches sur les maladies neurodégénératives. On sait très bien que ça, c'est depuis plusieurs années en fait, que le cerveau est un petit peu le... comment dire, l'espace inconnu du corps humain. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à comprendre dans le cerveau, et notamment pour permettre de trouver des thérapies face à ces maladies, et notamment la maladie d'Alzheimer. Donc ce 21 septembre est une journée de sensibilisation, de connaissance sur ce sujet-là. Donc il ne faut pas l'oublier pour ce 21 septembre. 21 septembre 1930, l'ingénieur allemand Johann Ostermayer dépose un brevet pour les ampoules flash photographiques. Ah, mais on avait connu ça en fait il y a quelques années, hein. Alors les jeunes ne savent pas de quoi je parle, mais les plus anciens d'entre nous se souviennent de ces barres d'ampoules qu'on accrochait à l'appareil photo, et il y avait un flash qui grillait à chaque fois qu'on l'utilisait. Et il y a déjà longtemps de ça, je ne sais même pas si ça existe encore en fait, si c'est encore une technologie qu'on utilise désormais, je ne sais pas, c'est une... une question, tiens, j'ai pas du tout, je ne suis pas renseigné, mais en tout cas en 1930, il y avait ce brevet qui avait été déposé. Et le 21 septembre 2003, la sonde spatiale Galileo est envoyée pour s'écraser sur Jupiter. Il y a déjà 21 ans de ça. Naissance, le 21 septembre 1756 de John McAdam. C'est un ingénieur écossais. Il est curateur des routes en Écosse puis à Bristol, et il fut le premier à mettre en œuvre un système de revêtement des routes à l'aide de pierres cassées. Et en fait, ça porte son nom, John McAdam. McAdam, le McAdam. En fait, ça vient bien de lui. Alors nous, on l'écrit M-A-C-A-D-A-M. Et c'est comme ça, en fait, ça vient de son nom, de John McAdam, qui est donc cet Écossais qui est né un 21 septembre 1756. Décès le 21 septembre 1923 de Fidel Miravé, médecin militaire espagnol. Il est reconnu notamment pour avoir découvert l'anesthésie péridurale. Oui, ça peut être utile, effectivement. Fidel Miravé, médecin espagnol, voilà, qui est donc décédé le 21 septembre 1923. Pardon, je vais y arriver. Alors, la semaine dernière, il y avait plusieurs choses que je voulais évoquer. Il y avait deux informations qui concernaient la Chine, et je voulais aussi faire un petit peu le point sur la variole du singe, parce que lors de la reprise de Biotine la semaine dernière, on faisait un petit peu le point sur l'actualité de cet été, et cet été, on avait quand même pas mal parlé de la variole du singe. Donc je voulais revenir là-dessus pour avoir un petit peu une idée de ce qu'est la variole du singe, comment ça se transmet. Enfin, voilà, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations. On a des inquiétudes, mais on ne sait pas trop nécessairement ce qu'il en est de cette variole du singe qu'on appelle le monkeypox. Le virus qui est donc responsable de ce monkeypox appartient à une famille des poxviridae. Donc, on retrouve un petit peu ce nom-là. C'est en fait la même famille que les virus de la variole humaine, bien que les symptômes du monkeypox soient généralement moins graves. Il peut se transmettre à l'homme à partir de divers animaux, mais il peut aussi se propager de personne à personne. Et cette complexité dans les voies de transmission rend la gestion des épidémies de variole du singe particulièrement difficile, en particulier dans les zones où les systèmes de santé sont fragiles. La principale voie de transmission du monkeypox est une voie qu'on appelle zoonotique, c'est-à-dire qu'elle se produit par le contact entre les humains et les animaux infectés. Et donc le virus du monkeypox est naturellement présent chez plusieurs espèces animales, principalement des rongeurs, alors notamment il y a des écureuils, il y a des rats de Gambie, il y a certains primates également qui sont concernés, des primates non humains, et la transmission à l'homme survient généralement par le biais de morsures, de griffures ou par le contact direct avec le sang, les fluides corporels ou les lésions cutanées des animaux qui sont infectés. Et ce qui est aussi un peu un élément de transmission, c'est la consommation de viande d'animaux sauvages mal cuites. C'est une pratique courante dans certaines régions d'Afrique et ça constitue donc également un risque important de transmission du virus à l'homme. Dans les zones où le virus est endémique, eh bien les populations vivent à proximité des forêts tropicales, elles sont les plus exposées, ces populations, parce qu'une interaction étroite avec les animaux sauvages et les activités comme par exemple la chasse, ça augmente considérablement le risque d'infection. Cependant, même en dehors des zones endémiques, eh bien, l'importation d'animaux infectés peut représenter une source de danger. Alors, on sait qu'il y a une vingtaine d'années, en 2003, il y avait une épidémie de monkeypox aux États-Unis qui a été liée à l'importation de rats de Gambie infectés qui ont ensuite transmis le virus à des chiens de prairie qui ensuite ont infecté des humains. Ça s'est fait comme ça il y a une vingtaine d'années. Alors bien que la transmission zoonotique soit le mode d'infection initial, eh bien la variole du singe peut également se propager d'une personne à une autre, bien que cette voie elle est quand même moins efficace. La transmission interhumaine se produit principalement par contact direct avec les lésions cutanées, les fluides corporels ou les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée. Le virus peut ainsi se transmettre par des objets contaminés, les draps, les vêtements, les ustensiles qui ont été en contact avec un patient qui était infecté. Donc il est important de noter que contrairement à la varicelle, eh bien la variole du singe n'est pas particulièrement contagieuse par voie aérienne, ce qui limite un peu sa propagation dans les populations humaines. Le risque de transmission est particulièrement élevé dans les environnements où les personnes sont en contact étroit pendant une période prolongée, comme par exemple dans les foyers familiaux ou dans les centres de santé, et notamment les travailleurs de ce secteur de la santé, en particulier ceux qui manquent d'équipements de protection individuelle appropriés, sont à un risque accru. Les épidémies récentes qu'on a évoquées en dehors de l'Afrique ont mis en lumière l'importance de cette voie de transmission, d'autant plus que le virus semble capable de se propager dans des populations non endémiques. Alors, pour prévenir la transmission de cette variole du singe, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Dans les zones endémiques, il est crucial de limiter les contacts avec les animaux susceptibles d'être porteurs du virus. Cela inclut donc l'évitement de la chasse et de la consommation de viande d'animaux sauvages. Et puis aussi l'amélioration des pratiques de cuisson. Les campagnes de sensibilisation sont également essentielles pour informer les populations locales des risques et des précautions à prendre. Et dans les zones où des cas humains ont été confirmés, la mise en quarantaine des personnes infectées, l'utilisation d'équipements de protection pour le personnel soignant et la désinfection rigoureuse des objets contaminés, ce sont des mesures cruciales. Les vaccins, notamment ceux qui sont développés pour la variole, offrent une certaine protection contre le monkeypox, bien que leur utilisation soit généralement réservée aux groupes à haut risque en raison des effets secondaires potentiels. Donc voilà, on en sait un petit peu plus donc, sur cette variole du singe, ce monkeypox, maladie émergente qui a capté un petit peu l'attention mondiale ces dernières années en raison de son potentiel à provoquer des épidémies au-delà des frontières de son habitat naturel. Et on en a voilà, un petit peu reparlé pendant cet été où il y a eu un petit peu une recrudescence et donc des campagnes de sensibilisation et des campagnes aussi de vaccination qui ont été menées pendant cet été. Et je voulais voilà, un petit peu juste très brièvement revenir sur ce sujet parce qu'on n'en avait pas nécessairement parlé par le passé dans cette émission de Biotine. Deux autres informations que je voulais évoquer la semaine dernière. Comme on parle un petit peu de ces épidémies, il y a une information qui nous vient de Chine, notamment sur ces virus à haut risque que l'on a découvert en Chine. La France a interdit en 2021 l'élevage d'animaux sauvages pour la fourrure, mais la Chine reste un acteur majeur de cette industrie et les fermes de visons, de renards arctiques ou de chiens vivrains sont encore largement largement répandu dans le pays. Le problème, c'est qu'au-delà des préoccupations éthiques liées au bien-être animal, dans ces élevages intensifs, eh bien, les fermes de fourrure représentent une menace sanitaire importante. Les animaux qui sont élevés dans des conditions de promiscuité sont susceptibles de devenir des hôtes pour de nombreux virus, ce qui va accroître un petit peu le risque que des virus présents dans la faune sauvage se propagent aux humains, comme cela a été bien sûr observé lors de l'épidémie de Covid-19 qui s'est répandue dans plusieurs fermes à Vison en Europe. Et donc il y a une étude récente, l'une des plus vastes jamais réalisées, qui s'est intéressée de près aux virus présents dans les fermes de fourrure en Chine. Les chercheurs, ils ont analysé les échantillons de tissus pulmonaires et aussi des morceaux d'intestin de plus de 400 animaux, principalement des animaux issus d'élevages intensifs du nord-est de la Chine. Et parmi ces animaux, il y en a plus d'un tiers qui provenaient de 4 espèces élevées exclusivement pour leur fourrure. Donc il y a les visons, les renards roux, les renards arctiques, les chiens vivrains. Il y a d'autres échantillons également qui provenaient d'animaux élevés à la fois pour leur fourrure, mais aussi pour la consommation ou la médecine traditionnelle. Ce sont par exemple les lapins, les cerfs, les cobayes. Et les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature. Ces résultats ont révélé la présence de 125 virus différents, dont plusieurs à haut risque pour les humains. 125 virus différents qu'on a pu retrouver chez ces animaux d'élevage, dont plusieurs qui sont quand même assez dangereux. Parmi eux, il y avait 36 qui étaient complètement nouveaux. Et beaucoup ont été découverts chez des espèces qui n'étaient pas encore connues pour héberger ces virus. Par exemple, on a donc découvert le virus de l'encéphalite japonaise qui a été détecté chez les cobayes. Ça, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et un autre virus particulier qui est le norovirus qu'on a découvert chez les visons. L'étude a également mis en évidence la présence d'un virus de la grippe aviaire H6N2 chez un rat musqué. C'est une première chez les mammifères. Mais le plus alarmant reste en fait la découverte d'un coronavirus chez les visons. Auparavant, il était uniquement identifié chez les chauves-souris. Là, on l'a découvert chez les visons et ça pourrait potentiellement s'adapter à un récepteur humain, à la façon un petit peu de ce qui s'est passé pour le Covid-19. Et les découvertes qui confirment ce que les chercheurs soupçonnaient, c'est que les fermes de fourrure peuvent être des lieux où des virus, jusque-là confinés à la faune sauvage, pourraient franchir la barrière des espèces et donc se propager à l'homme. C'est ça un petit peu l'information de cette étude. Un peu inquiétant, on va dire. Les scientifiques impliqués dans l'étude préconisent donc une régulation stricte de l'industrie de la fourrure. Et ils préconisent également des mesures de biosécurité renforcées, c'est-à-dire une mise en quarantaine des animaux, une réduction de la surpopulation et des règles strictes qui concernent l'hygiène des cages et la gestion des déchets. Alors il y a certains experts qui appellent à la suppression pure et simple de ces fermes afin d'éliminer les risques sanitaires liés à ces élevages. Une recommandation, bien sûr, qui pourrait rester lettre morte dans le premier pays producteur de fourrure au monde. Hein, il y a quand même une économie derrière, tout simplement. C'est ça qu'il faut voir. Il y a un marché mondial affaibli par les préoccupations grandissantes autour du bien-être animal, ok. Mais même si ce marché faiblit, il existe encore. Et donc la Chine, qui est le premier éleveur, entre guillemets, enfin qui est un acteur majeur dans cette industrie de la fourrure, il va peut-être pas nécessairement se tirer une balle dans le pied aussi facilement. Mais voilà, cet article donc qui a été publié dans la revue Nature pendant cet été est assez alarmant avec ces nombreux virus à haut risque qui sont découverts dans les élevages d'animaux à fourrure. Voilà, c'est pas guère rassurant tout ça. Et puis enfin, cette troisième information qui concerne là encore la Chine, et c'était là encore cet été, précisément le 6 août dernier, il y a eu un lanceur qui a décollé du port spatial de Taïwan, qui est Taïwan, je ne sais pas comment on dit. C'est pas Taïwan, le Taïwan qu'on connaît. C'est un autre Taïwan, je crois. Il y a en fait un centre spatial, hein, tout simplement. Et il y a eu un lanceur qui a décollé. Il transportait un premier lot de 18 satellites. Ça faisait partie de la future constellation Internet chinoise qui est développée par Shanghai Spacecom Satellite Technology. Cette constellation a l'ambition d'avoir jusqu'à 14 000 satellites. Alors effectivement, ça fait beaucoup. Ils en ont donc envoyé envoyé un premier lot de 18 dans l'espace. Les satellites ont été correctement positionnés sur une orbite polaire à 800 km d'altitude. Jusque-là, tout va bien. Mais malgré le succès du déploiement des satellites, eh bien, l'étage supérieur du lanceur, qui est conçu pour de multiples redémarrages, il a explosé. C'est ce que expliquait, l'a rapporté Slingshot Aerospace, une entreprise spécialisée dans le suivi spatial. Ils regardent un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Et les autorités spatiales chinoises n'ont fait aucun commentaire sur cet incident, plutôt embarrassant, hein, bien sûr, pour un pays qui souhaite rivaliser avec les États-Unis dans le domaine spatial, bien sûr. Tu m'étonnes, ils disent rien. Mais ce lanceur qui a été développé par l'Académie d'État de la technologie des vols spatiaux de Shanghai est conçu avec des moteurs qui fonctionnent à l'oxygène liquide et au kérosène. Tout ça, des moteurs associés à des boosters, qui sont à propergol solide. Et donc ce lanceur, il a une capacité de pouvoir un petit peu emporter avec lui 4500 kg vers une orbite à 700 km d'altitude. En soi, c'est assez performant et c'est assez utile. Et bien qu'il ait été lancé avec succès à 7 reprises depuis son premier vol en mars 2022, parce qu'on a l'idée de le réutiliser pour pouvoir le lancer plusieurs fois, eh bien, c'est pas la première fois qu'un accident de ce type s'est produit, parce qu'il y a à peu près 2 ans, il y a une explosion similaire de son étage supérieur qui avait déjà entraîné la détection de plus de 500 fragments. Et les causes de l'explosion de l'étage supérieur restent à ce jour inexpliquées. En tout cas, il n'y a pas eu de communication pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Le commandement de la force spatiale des États-Unis a confirmé de son côté l'explosion et a annoncé que ces nouveaux débris seraient catalogués et suivis. Alors, pour l'instant, les États-Unis indiquent qu'il n'y a pas de menace immédiate pour la Station spatiale internationale, mais ces débris constituent quand même potentiellement un risque pour les satellites en orbite terrestre basse, en particulier ceux qui évoluent à des altitudes inférieures à 800 km. Et il y en a beaucoup, et c'est assez inquiétant, parce que cette fusée chinoise qui explose dans l'espace, il y a des centaines de débris qui ont été... On estime jusqu'à à peu près 1000 débris qui ont été produits à l'occasion de cette explosion, et ces débris sont en orbite également, et ça devient des projectiles qui sont hyper dangereux, bien sûr. Il y a une société qui surveille l'orbite terrestre qui s'appelle Leo Labs. En fait, ils ont un réseau mondial de radars et puis ils regardent un petit peu ce qui se passe au niveau de cette fameuse orbite terrestre basse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, il y a beaucoup d'éléments qui circulent et donc voilà, ils précisent qu'il y aurait à peu près pas loin de 1000 débris qui se sont générés à l'occasion de cette explosion. Et les débris spatiaux peuvent rester en orbite pendant des décennies. Alors ça dépend de leur taille, de la densité, il y a pas mal de facteurs qui restent à prendre en considération, mais on peut estimer que ces débris suite à cette explosion peuvent rester dans ces orbites basses pendant plusieurs décennies. On est en train de polluer l'espace, mes enfants, on s'en rend même pas compte, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué de pouvoir avoir une installation de satellites, parce que ces fameux débris peuvent parfois devenir incontrôlables, ou même si on arrive à les suivre, ils vont être tellement de plus en plus nombreux à être suivis que ça devient quand même assez compliqué d'avoir une cartographie fluide et efficace et rassurante de cet espace. Voilà, c'était les 3 informations que je voulais évoquer la semaine dernière et qu'on évoquera donc aujourd'hui pour cette émission de Biotine, Biotine de la science. Biotine, c'est aussi un peu de musique. Glass of matter. Mysterious Love, c'était Jules sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Et nous allons parler un petit peu de médecine, cette fois avec cet outil totalement faramineux qui fait 5 mètres de diamètre. Il y a un aimant de 132 tonnes. Il y a du fil supraconducteur qui est utilisé. 182 km de fil, c'est ce qu'on a utilisé. C'est des dimensions totalement hors normes pour un instrument à la hauteur de sa performance. Il s'appelle ISE et c'est tout simplement l'IRM le plus puissant du monde. C'est vraiment important, c'est vraiment intéressant. Il a un champ magnétique de 11 Tesla. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça nous dit qu'en fait, qu'il est 8 fois supérieur à celui des IRM de la plupart des hôpitaux. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr la précision des images qu'on a eues, la précision de ces premières images que vous pouvez voir, notamment dans Science et Avenir de septembre, des images du cerveau, des images qui ont été tout juste dévoilées. Elles sont impressionnantes parce que nous pouvons maintenant observer le cerveau vivant à une résolution inégalée et très important en un temps raisonnable. C'est ce qu'explique Nicolas Boulan, qui est directeur du projet au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc avec ISE, c'est un nouveau chapitre des neurosciences qui s'ouvre. Les informations obtenues sur des amas de neurones jusqu'alors inatteignables permettront de mieux comprendre l'anatomie du cerveau, ses connexions et son activité. Je vous disais tout à l'heure en début d'émission que c'est encore un domaine inconnu. Et donc là, on a un outil quand même vraiment génial pour pouvoir mieux comprendre l'anatomie et le fonctionnement du cerveau. On va s'intéresser dans un premier temps à l'IRM fonctionnel qui permet d'observer le neurone en action lors de tâches simples telles que la lecture ou le calcul mental. C'est ce qu'explique donc ce directeur du projet Nicolas Boulan. En outre, des projets pour investiguer la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques sont déjà en discussion, nous dit-il. C'est vraiment un succès qui est la concrétisation de plus de 20 ans de recherche et de développement grâce à un partenariat qui a rassemblé près de 200 chercheurs au total, des neuroscientifiques bien évidemment, des physiciens, des mathématiciens et des médecins pour avoir cet IRM ISE le plus puissant du monde qui dévoile le cerveau comme jamais. Vous avez des photos qui sont véritablement intéressantes que l'on peut voir dans les différents médias et revues de vulgarisation scientifique, bien évidemment. Toujours au niveau médecine, il y a eu une découverte prometteuse qui a été annoncée il y a quelques jours, mais qui date en fait de la fin de l'année 2023. Une découverte prometteuse dans le domaine de l'oncologie. L'oncologie, c'est le domaine du cancer. Et ça fait notamment la une de Science Alert. Ce sont des chercheurs américains qui ont développé une méthode inédite pour combattre le cancer en utilisant des molécules vibrantes pour détruire les cellules malignes. Cette technique qui est bâtie baptisé marteau-piqueur moléculaire, offre en fait une nouvelle perspective dans la lutte contre cette maladie redoutable. Au cœur de cette innovation se trouve, les molécules d'aminocyanine. Elles sont déjà utilisées en imagerie médicale. On utilise en fait l'aminocyanine comme un colorant synthétique. Cyanine, cyan, couleur bleue. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un colorant. Et ces molécules, elles représentent, elles ont des propriétés vraiment remarquables. Elles sont stables dans l'eau. Elles sont, elles ont une capacité de pouvoir s'attacher facilement à la surface des cellules. Et elles ont une sensibilité à la lumière proche de l'infrarouge. Et donc, c'est vraiment des propriétés qu'on va pouvoir utiliser. L'équipe de recherche, qui est composée de scientifiques de différentes universités américaines, et notamment l'université du Texas, eh bien, cette équipe a découvert que ces molécules, lorsqu'elles sont stimulées par une lumière proche de l'infrarouge, elles vont vibrer de manière synchronisée. Et cette vibration, elle est si puissante qu'elle parvient à déchirer la membrane des cellules cancéreuses. C'est le professeur James Tao qui mène un petit peu ses recherches. Il explique, c'est une toute nouvelle génération de machines moléculaires que nous appelons marteau-piqueurs moléculaires. Ils sont plus d'un million de fois plus rapides dans leur mouvement mécanique que des précédents moteurs qu'on avait. Et les tests ont donc été menés en laboratoire et ils ont révélé des résultats totalement spectaculaires, je vous livre. On a donc 99%, ça veut dire presque l'intégralité de la destruction des cellules cancéreuses qu'on avait cultivées, et la moitié de guérison complète pour des souris qui étaient atteintes de mélanome. Donc ce sont des chiffres totalement impressionnants qui soulignent un potentiel thérapeutique considérable de cette technique. De plus, l'utilisation de la lumière proche de l'infrarouge, elle présente un avantage majeur parce qu'elle permet de pénétrer plus profondément dans les tissus. Donc on n'a pas nécessairement à ouvrir en fait le corps pour pouvoir agir. Entre guillemets, c'est un petit peu ça l'idée. Et on pourrait donc, théoriquement, traiter des cancers des os ou des organes sans recourir donc à la chirurgie. Un autre chercheur, le chimiste, le docteur Ciceron Ayala Arzurco, qui fait donc partie de cette équipe de recherche, il explique le fonctionnement de ces marteaux-piqueurs. En fait, ces molécules d'aminocyanine, elles sont stimulées par une lumière proche de l'infrarouge. Cette stimulation, elle provoque la formation de ce qu'on appelle des plasmons. Des plasmons, ce sont des vibrations collectives des électrons. Et ces plasmons, ils entraînent un mouvement mécanique de l'ensemble de la molécule. Et donc ce mouvement qui va être amplifié par toutes ces molécules qui sont présentes, et ça va être amplifié de façon un petit peu synchrone, c'est-à-dire qu'elles vont toutes bouger en même temps de la même façon, eh bien ça détruit la membrane des cellules cancéreuses. Elles étaient accrochées à ces cellules cancéreuses et si elles bougent toutes en même temps, il y a une espèce de force qui fait que la cellule se détruit. Cette approche biomécanique, elle présente un avantage supplémentaire. Il serait difficile pour les cellules cancéreuses de développer une résistance contre ce type d'action qui est purement mécanique, c'est-à-dire que la cellule va difficilement pouvoir se protéger face à ces mouvements, cette agitation qu'il va y avoir et qui fait que la cellule, la paroi de la cellule va se rompre. Alors, attention, ce sont bien sûr des résultats qui sont extrêmement encourageants, mais il faut quand même rappeler, et cet article de Futura Science nous le rappelle, la recherche n'en est qu'à ses débuts, bien évidemment. Les prochaines étapes vont inclure probablement des tests sur d'autres types de cancers, l'exploration d'autres molécules qui pourraient agir de manière similaire, et puis bien sûr, des essais cliniques chez l'homme. Et là, bien sûr, on est dans une phase expérimentale qui peut parfois durer. Alors, en tout cas, le docteur Ayala Orzoko souligne l'importance de cette découverte. Je cite, « Cette étude porte sur une nouvelle façon de traiter le cancer en utilisant des forces mécaniques à l'échelle moléculaire. C'est donc une approche totalement novatrice qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de traitements anticancéreux. Ça apporte bien sûr des espoirs, des perspectives aux millions de personnes touchées par cette maladie dans le monde. Mais voilà, c'est ces molécules vibrantes qui permettent de détruire presque l'intégralité des cellules cancéreuses dans ce test qui a été mené, bien évidemment. C'est totalement prometteur, c'est totalement intéressant, bien sûr. Et là, on se dit que finalement, ça fait du bien un petit peu de parler de science dans cette émission. Allez, face à cet enthousiasme débordant, un peu de musique, bien sûr. On se retrouve juste après. Someone Tonight, c'était PJ Harvey sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Graphite qui organise sa 13e bourse au disque, au BD et au rétro gaming. Ce sera le dimanche 20 octobre, toute la journée à Margny-les-Compiègne. Alors, si vous souhaitez vous inscrire pour être exposant, vous consultez la page internet de Graphite, hein, graphite.net, pour avoir toutes les informations et pour vous inscrire à cette 13e bourse au disque, BD et rétro gaming le 20 octobre à Margny-les-Compiègne. Déjà la 13e bourse, ça passe tellement vite, bien évidemment. On continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Il y a quand même pas mal de choses au niveau médecine. Il y a notamment ces robots. Alors, au niveau médecine, comment dire, là, on est plutôt une robotique par contre, mais parce qu'on parlait de muscles, c'est pour ça que je faisais le lien avec la médecine, mais on va plutôt parler de robotique, des robots qui peuvent être équipés de différents types d'actionneurs pour leur permettre de bouger. Ça existe, on en a vu, on connaît, on sait ce que c'est. Boston Dynamics a récemment abandonné une version hydraulique, notamment de son robot qui s'appelle Atlas, et il a sorti une nouvelle version plus performante dotée de moteurs électriques. Mais dans un article publié dans la revue Nature Communications, il y a des chercheurs de Zurich et de l'Institut Max Planck pour les systèmes intelligents qui viennent de présenter un autre robot, et notamment une jambe robotique qui fonctionne grâce à des muscles artificiels. Donc ça, c'est totalement nouveau, parce qu'avant, on avait des actionneurs, on avait quelque chose, on va dire, de mécanique, entre guillemets. Et là, on est bien sûr sur un aspect mécanique, mais un aspect de muscles artificiels qui sont des actionneurs électro-hydrauliques, bien plus économes en énergie que des actionneurs traditionnels. En fait, il s'agit de sacs en plastique remplis d'huile avec des électrodes sous la forme d'une couche conductrice de chaque côté. Et sous l'effet d'un voltage, eh bien, ces électrodes s'attirent, ça augmente la pression dans le reste du sac et ça réduit sa longueur. Donc c'est un petit peu le fonctionnement d'un muscle. Une jambe donc robotique équipée de plusieurs paires de ces muscles artificiels peut effectuer des sauts et des mouvements rapides et peut même détecter la présence d'obstacles sans avoir besoin de capteurs complexes. Alors l'un des avantages est que les muscles artificiels ne consomment quasiment pas d'énergie lorsque la jambe ne bouge pas. Et de plus, les actionneurs ne chauffent pas hein, comme un moteur électrique. Ça limite les pertes d'énergie inutiles et ça évite le recours à des systèmes de refroidissement. Alors, le système, il est actuellement encore très limité. Hein, la jambe robotique étant attachée à une tige et ne peut que se déplacer sur un cercle. Donc, c'est assez rudimentaire, bien évidemment. Toutefois, ce champ de recherche est encore très récent et les chercheurs espèrent pouvoir dépasser les limites actuelles. Dans ce cas, il sera possible d'utiliser ces muscles artificiels pour les jambes des robots humanoïdes ou des robots quadrupèdes. Ils sont également prometteurs pour les systèmes de préhension et pour ce qu'on appelle la robotique molle. Donc c'est vraiment une robotique qui franchit un cap, bien évidemment, avec donc des chercheurs qui inventent des muscles artificiels pour robots. C'est vraiment intéressant. Et alors, j'ai pas vérifié si on avait des vidéos. Là, c'est un article de Futura Science qui parle de ça. Mais voilà, les robots du futur vont avoir un aspect totalement nouveau et encore plus performant, bien sûr. Donc on suivra ça, bien évidemment. Des petites brèves que l'on peut trouver dans Science et Avenir. Il y a des revues hein, de vulgarisation scientifique qui sont vraiment bien faites et intéressantes. Il y a Science et Avenir, Science et Vie, Epsilon. Et vous avez sur les sites internet également des articles qui sont gratuits ou payants. Hein, bien sûr, ça dépend bien évidemment. Mais en tout cas, d'une qualité irréprochable et surtout vraiment adaptée à un grand public. Ce qui permet justement de pouvoir un petit peu comprendre ces recherches. Et il y a plein de choses assez intéressantes dans ces revues avec des petites brèves qui sont assez étonnantes, notamment alors là il y a vraiment des sujets on est plutôt sur un aspect physique, notamment une physique fondamentale. D'après les principes de la physique, on sait que les charges électriques identiques se repoussent, hein, on a appris ça à l'école, c'est du moins ce qu'on apprend notamment au collège avec ce qu'on appelle la bonne vieille loi de Coulomb, sauf que c'est pas toujours le cas. Et donc là, tout ce qu'on avait appris depuis notre enfance s'effondre d'un seul coup. Madhavi Krishnan, qui est physico-chimiste à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, vient de démontrer un petit peu le contraire à l'aide d'une nouvelle expérience. La loi de Coulomb reste inchangée pour des charges identiques et isolées, mais quand les particules chargées interagissent dans une solution, elles sont effectivement susceptible de s'attirer. Alors tout commence il y a une vingtaine d'années. Hein. Madhavi Krishnan observe alors que des molécules d'ADN chargées négativement étaient attirées par les parois de la boîte dans laquelle elles étaient contenues, qui étaient pourtant également dotées de la même charge. Donc elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi ça s'attirait, parce que normalement, même charge, ça se repousse. Et elle a donc mené quelques recherches et après plusieurs investigations, eh bien, la chercheuse s'est rendue compte que ce phénomène avait même été repéré dans de nombreuses autres expériences, de quoi suspecter qu'il n'était pas si inattendu. Et elle a voulu le prouver, donc elle a quand même travaillé dessus pendant une vingtaine d'années. Et pour y parvenir, elle et son équipe ont plongé des microsphères chargées dans différentes solutions d'eau ou d'alcool. Et résultat, dans l'eau, les particules chargées positivement se repoussent, tandis que celles chargées négativement s'attirent. Et l'inverse se produit dans l'alcool. Donc c'était quand même... Enfin, on est en train de remettre en cause des lois fondamentales de la physique, mine de rien. Et C'est une théorie qui est vieille d'un siècle quand même et qu'il va falloir réviser avec ces nouvelles informations de ces charges électriques identiques qui peuvent s'attirer. On ne sait plus à force où on en est, mais c'était quand même assez intéressant bien évidemment. Une autre petite brève qu'on a dans Science et Avenir, c'est ça se passe sur Mars, près de l'équateur de Mars. Pascal Lee, qui est de l'Institut de l'Université de Maryland aux États-Unis, il a découvert un énorme volcan de 9 kilomètres de haut et de 450 kilomètres de large. Ouais, c'est quand même pas anodin, bien évidemment. Et il est en fait tellement érodé qu'il est difficile à identifier ce volcan. Nous pensons qu'un de ses composants majeurs est de la glace d'eau. Des éruptions à sa périphérie ont conduit à la volatilisation de quantités massives de glace et ainsi à l'effondrement de sections monumentales, c'est ce qu'il décrit. Et donc tout autour de cette zone, il y a des dépôts relativement récents, dont des flots de lave sur environ 5000 km² qui ont été aussi révélés. C'est-à-dire que ce volcan qu'on a sur Mars pourrait être encore actif. Ça, c'est une information qui est quand même assez fascinante. On aurait un énorme volcan qui serait encore en activité sur Mars. On va pouvoir étudier l'évolution géologique de Mars d'une manière inédite, hein, c'est ce qu'explique ce chercheur. Ce sera aussi un site potentiel pour l'exploration humaine. La région contient en effet de l'eau et de la chaleur, ce qui en fait une candidate de choix pour la recherche d'hypothétiques traces de vie, bien sûr, sur Mars. Je vous rappelle que c'est l'un des objectifs qu'on suivra dans ces années futures, mais les prochaines années, on va pouvoir essayer d'être vraiment informé. Je n'irai pas au quotidien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant les prochaines années. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ? On va aller s'installer sur place là-bas. Et on découvre qu'il y a un volcan qui pourrait être encore en activité. C'est totalement bluffant. Enfin, toujours dans Science et Avenir, cette petite brève qui concerne un nouveau matériau qui est assez révolutionnaire, ce qui permettrait d'avoir un monde sans route verglacée. C'est une promesse d'une équipe de l'université Drexel. C'est à Philadelphie aux États-Unis. Ce sont des chercheurs qui ont créé un béton qui est capable de se réchauffer lorsque les températures chutent suffisamment pour éviter qu'il y ait du gel qui se forme dessus. Quand même fascinant. C'est-à-dire, on aurait des routes qui se chauffent toutes seules et qui évitent donc la formation de verglas. Alors le secret justement de ces routes et de ce béton, eh bien lors de sa fabrication, il y a de la paraffine liquide en microcapsules qui est mélangée donc dans le granulat qui est l'un des ingrédients de base du béton. Avec le ciment et l'eau, on rajoute donc ces espèces de petites capsule de paraffine. Et lorsque la température extérieure descend en dessous de son seuil de solidification, c'est-à-dire que la paraffine devient solide à environ 4 degrés, et bien quand c'est en dessous, la paraffine elle va durcir et elle va larguer une espèce de chaleur qu'elle a accumulée précédemment. C'est ce qu'explique Frédéric Grondin, qui est professeur à l'École centrale de Nantes. Résultat, ce béton se maintient entre 5 et 12 degrés jusqu'à 10 heures d'affilée, lorsque les températures de l'air tombent en dessous de 0 degré. Ça permet en fait de faire fondre 6 mm de neige par heure, c'est quand même pas mal. Et donc il suffit alors d'un peu de soleil pour que la paraffine se redevienne liquide et que le béton soit de nouveau prêt à se réchauffer. Alors bien sûr, ça ne suffit pas à affronter des chutes de neige importantes, hein, bien évidemment. S'il y a vraiment des chutes de neige importantes, c'est pas cette route qui chauffe un tout petit peu qui va permettre de pouvoir résoudre la problématique des routes enneigées. Mais en tout cas, l'application la plus intéressante, c'est la lutte contre le gel. Les cycles de congélation des gels provoquent en effet l'expansion et la contraction du béton classique, ce qui réduit son intégrité. Et donc, on ajoute du sel en hiver sur les routes, ça se dégrade vite. Et donc, ce béton auto-chauffant pourrait durer plus longtemps que ce que l'on a jusqu'à maintenant. Voilà, ça permet donc de préserver les routes et puis ça permettrait éventuellement de pouvoir éviter d'avoir du verglas. Ça peut être utile, moi je dis. Ça peut être utile. Voilà ce que vous trouvez dans Science et Avenir, bien sûr. Puis vous avez sur ces revues des photos qui illustrent tout ça, ce qui peut être aussi appréciable. Allez, on continue à feuilleter la revue Presse d'actualité scientifique et puis on écoute aussi toujours un peu de musique. Vous êtes bien sur Graphite. I drank the air to be nearer to you.
for these are not ordinary moments, but the circle that I traced in the palm of my hand. You're always in the band, forever on the ground. Name my grief to let it sing.
The Greater Wings, c'était Julie Byrne sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous écoutez Biotine précisément, là, nous sommes samedi, et ou mardi matin aussi, il y a la rediffusion le mardi matin, bien sûr. Et on feuillette comme ça la revue de presse de l'actualité scientifique et on va parler du Titanic, hein, parce que c'est quand même un objet de fascination. Naufrage en 1912, eh bien le Titanic n'est pas prêt de sombrer dans les profondeurs de l'oubli et continue de révéler des trésors disparus. Le dernier en date, c'est une petite statue que l'on croyait perdue à jamais. Elle a été retrouvée lors d'une enquête autour d'un autre drame, celui de l'implosion du submersible Titan en juin 2023. C'est lors d'une expédition sous-marine que la statue Diane de Versailles a été redécouverte par la société RMS Titanic, responsable des récupérations sur le site de l'épave. Cette réplique en bronze d'une statue antique représente donc la déesse romaine de la chasse, Diane. Initialement placée dans le grand salon du Titanic, elle avait été photographiée en 1986 à une profondeur de 3800 mètres. Mais elle avait ensuite disparu des radars. Elle était enfouie sous des couches de sédiments et elle semble toutefois en relativement bon état compte tenu de l'endroit où elle est reposée pendant plus de 100 ans. Et pour cause, le bronze est particulièrement résistant à l'usure et à la corrosion. Alors on ne peut pas en dire autant des autres trésors qui continuent de dormir dans l'épave et d'attirer les scientifiques et les passionnés. Parmi eux, eh bien, la circassienne au bain du peintre néoclassique Blondel, ou encore un recueil de poèmes persans la société RMS Titanic ambitionne de récupérer un petit peu tout ça à l'avenir. Cette société qui a profité de sa mission pour cartographier l'épave. Mais donc voilà, un trésor qu'on croyait perdu jamais à retrouver à bord du Titanic. C'est quand même fascinant, bien évidemment. Autre chose, aucun rapport, et là on revient d'un point de vue médecine avec quand même des choses assez alarmantes au niveau du surpoids et de l'obésité qui ont globalement augmenté chez les Français entre 1996 et 2017 avec des différences entre les sexes. Si la croissance de la corpulence semble se stabiliser chez les hommes, une hausse qui perdure chez les femmes selon une étude inédite par sa durée, parce que comme je l'ai dit, ça fait quand même une durée sur une vingtaine d'années. Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire qui a été publié début septembre, Santé publique France livre des résultats basés sur des enquêtes téléphoniques effectuées régulièrement pendant ces 20 dernières années auprès d'un échantillon national représentatif. Et c'est la première fois qu'on obtient un suivi sur 20 ans de la corpulence déclarée des Français. C'est ce qu'explique Charlotte Verdeau, qui est épidémiologiste à Santé publique France. Les analyses ont porté au total sur plus de 120 000 personnes de 18 à 75 ans, avec environ 55 000 hommes et 70 000 femmes. Donc c'est quand même un nombre assez conséquent, et c'est ça qui est intéressant dans cette étude. Chez les hommes, la proportion de personnes se déclarant surpoids a augmenté au cours de entre 1996 et 2008. Ça passe respectivement de 40 à 48%, et ça semble se stabiliser autour de 48-50% à peu près. En clair, l'obésité, qui concernait 7% des hommes en 1996, a augmenté pour dépasser les 14% en 2016. Ça a reculé un petit peu en 2017, mais en tout cas, voilà, ça augmente, mais c'est plus important chez les femmes. Parce que chez les femmes, la corpulence a augmenté de façon régulière. Ça se stabilise, mais c'est en augmentation chez les femmes, c'est ce que résume donc Santé publique France. Cette croissance de la corpulence se retrouve dans tous les pays occidentaux. Elle s'explique notamment par des évolutions de mode de vie, par une hausse de la sédentarité, une baisse de l'activité physique, et puis davantage de malbouffe, bien évidemment. Alors la corpulence a été estimée en calculant un indice de masse corporelle, en divisant le poids déclaré en kilos par le carré de la taille déclarée en mètres. Bref, ça c'est la formule qui permet de calculer cette IMC, l'indice de masse corporelle. Et donc le surpoids est défini par un IMC supérieur ou égal à 25, et l'obésité, c'est quand cette IMC est supérieure ou égale à 30. Ces données, qui devront être corroborées par le recueil de données anthropométriques mesurées, ça vient confirmer un petit peu les précédents résultats. Parce qu'il y a des études qui sont menées régulièrement avec des résultats qui sont diffusés assez régulièrement depuis plusieurs années. Comme je vous l'ai dit, ça date depuis 1996 et cette étude est réalisée tous les 3 ans depuis. Ça a été relancé par la Ligue contre l'obésité. L'étude de Santé publique France nous montre que l'évolution n'a pas été la même chez les hommes et les femmes. On peut mettre en parallèle les niveaux d'activité physique qui se dégradent dernièrement chez les femmes alors qu'ils se maintiennent chez les hommes. C'est ce que révèle l'épidémiologiste Charlotte Verdeau. Il manque des données liées à l'âge. On sait qu'il peut y avoir un basculement chez les femmes à la ménopause. L'obésité est une maladie multifactorielle qui reflète l'évolution de notre société, mais peut aussi avoir des liens avec la vulnérabilité sociale, des facteurs liés au stress, aux perturbateurs endocriniens, aux mécanismes biologiques qui conduisent à la prise de poids chez certaines personnes, ne sont pas tous complètement appréhendés selon elle. Le surpoids concernant quasiment la moitié de la population française, il est en tout cas urgent d'avoir des campagnes de prise en charge à titre préventif, mais aussi une fois qu'il est installé. Tout ça parce que le surpoids et l'obésité constituent des facteurs de risque majeurs des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, des décès prématurés, des maladies infectieuses, ça on l'a vu notamment lors de l'épidémie de coronavirus. En avril 2023, Martine Laville, professeure de nutrition à l'Université de Lyon, avait proposé dans un rapport remis au gouvernement 40 pistes très concrètes pour lutter contre l'obésité. Parmi elles, il y avait développé une offre de restauration scolaire attractive pour les élèves, notamment dans les quartiers prioritaires, ou intégrer dans la nouvelle consultation de prévention le repérage du surpoids et de l'obésité. Donc voilà, des chiffres assez alarmants. Une tendance qui inquiète au niveau du surpoids. Près de 50% des Français sont concernés. Et on redoute bien évidemment des répercussions d'un point de vue médical assez importantes, bien évidemment. Donc voilà. Dans cette émission, il y a des choses qui sont positives, puis il y a des choses qui sont bien sûr dramatiques, ou en tout cas qui font réfléchir et qui sont assez alarmantes. C'est un petit peu le principe même de cette émission Biotine. Mais on va finir quand même avec cette bonne nouvelle, toujours au niveau médecine. 15%, c'est l'augmentation de la surface du cortex humain en un demi-siècle. Alors, le cortex, c'est cette couche superficielle du cerveau. Elle est plus étendue, elle est plus riche en matière grise et blanche, elle s'est amincie, elle forme plus de plis, ce qui favorise les connexions nerveuses. C'est ce qu'on a constaté donc en un demi-siècle avec l'augmentation de 15% de cette surface du cortex. Ça a été mesuré chez plus de 3000 habitants 3000 habitants de Framingham au Massachusetts. Et cette étude a été menée donc chez ces habitants. Et cette tendance, en fait, ça reflèterait l'amélioration de la santé de la population. Ça expliquerait la baisse de l'incidence des démences. Et donc, chez cette population née entre 1925 et 1968, eh bien, on a constaté donc une augmentation de ce cortex humain. 15%, c'est quand même assez important, quand même, pas le... faut le souligner. 15%, mais voilà, ça... Notre corps change, en fait. C'est ça qui est assez révélé par cette étude, bien évidemment. Voilà, allez, c'était fini pour aujourd'hui. J'ai quand même pas mal parlé, je pense. Je pense que vous êtes maintenant pas mal informés de l'actualité scientifique, mais ça ne s'arrêtera jamais, bien évidemment, parce qu'on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine, bien évidemment. Et puis on se retrouvera le samedi 12 octobre en direct de la Fête de la Science. Ce sera entre 14h et 16h et on fera une émission spéciale où on va accueillir voilà, les chercheurs que l'on amènera au micro de Graphite pour nous expliquer un petit peu ce qu'ils font dans les laboratoires à l'occasion de la Fête de la Science de l'Université de Technologie de Compiègne. Donc ça sera le samedi 12 octobre. On aura l'occasion, bien sûr, de reparler d'ici là. Pour l'instant, mais je vous laisse entre les mains de l'animateur fantôme de Graphite et puis toutes les autres émissions de la grille de Graphite sur le 94.9. Pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve samedi prochain à 12h, bien sûr. À bientôt, au revoir.